Alléluia. Seigneur, te remercie d'être là ce matin pour venir remplir nos cœurs de ta joie. Seigneur, c'est dans les petites choses, Seigneur, les choses que tu nous donnes de faire à chaque semaine, que tu es là au milieu de nous, Seigneur, dans louange, l'adoration, puis dans fraternité, on peut voir puis ressentir ta joie puis ta paix, Seigneur, puis le ménage que tu fais dans notre esprit, dans notre âme avec tout cela, Seigneur. Je te demande, Seigneur, ce matin, de parler à nos cœurs aussi par ta parole, qu'on puisse être puissamment fortifié par ta parole, parce que de ta parole, ça augmente notre foi. Parce que tu nous dis dans ta parole que notre foi vient de ce qu'on entend, puis ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tout ce qu'on va entendre ce matin, ça va augmenter notre foi, puis ça va nous affermer, puis ça va nous rendre capables de combattre efficacement. Fait qu'on remet nos vents entre tes mains dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je crois qu'il est important qu'on confesse, pas nécessairement qu'on vit de pensées positives, mais on confesse ce qu'on croit. Jésus dit, si vous croyez dans votre cœur ce que vous dites, arrive, vous le verrez s'accomplir, n'est-ce pas? Quand tu es appuyé sur un verset de la Bible, tu confesses le verset de la Bible, puis il y a une puissance que Dieu va faire pour accomplir ce qu'il a promis. Mais ça prend de la foi pour activer cette manette-là. C'est vrai, là. Les versets sont tous dans la Bible. Si on ne les goûte pas, les promesses, c'est parce qu'on n'a pas mis notre foi là-dedans. Parce qu'elle est là pour disponible pour tout le monde. Tout l'ensemble des promesses pour être sauvé, pour être pardonné de nos péchés, d'avoir notre nom inscrit dans le livre de vie, pour avoir le Saint-Esprit, pour être revêtu de cette puissance, puis avoir les dons spirituels, puis être exaucé dans nos prières, puis que notre vie change, puis elle soit transformée par la nouvelle nature. Tout ce qui est écrit, c'est promis. Mais on peut l'expérimenter en autant qu'on y croit. Puis si on le croit, on va se mettre à le confesser. Puis on va dire, regardez, là on confesse le verset, puis on s'attend à ce que ce verset-là s'accomplisse. On va voir la puissance de Dieu agir. Moi, je crois à cela. Puis les seules fois que je vois que je le vis moins, c'est quand que je suis moins en train de me confier dans cela, puis de le confesser. Il faut revenir toujours à parole, parce que c'est ça qui est du roc, qui est du solide. Puis il dit, Jésus dit de bâtir notre vie sur le roc, qui est sa parole. De la mettre en pratique, mais aussi de confesser les choses de foi pour voir les choses changer. On continue notre message sur la série de discerner nos ennemis. Les deux derniers messages que je vous ai apportés, je vous ai parlé d'un ennemi du croyant, qui était le diable et ses anges. Deux messages qui sont sur Internet, dans le site de l'Église, puis dans le site de publication, traditionévangélique.com. Ça, c'est mon site que je mets mes prêches personnels. Puis aujourd'hui, on continue en voyant par la parole de Dieu un autre ennemi que le chrétien doit combattre. Puis on est en guerre avec cet ennemi-là, puis souvent, on l'oublie que c'est un ennemi. Puis si on oublie que c'est un ennemi, on se fait charrier. On se fait transporter par cet ennemi-là, c'est pas un esprit. On se fait transporter par cet esprit-là. Voyons, pas l'esprit. Par cet ennemi-là, puis il nous emmène dans des chemins, souvent que c'est le chemin qui est loin du Seigneur. C'est un des plus grands ennemis de tout le monde sur la planète. C'est un ennemi qu'on traîne à tous les jours. Wow! C'est le même ennemi. Là, vous voyez le titre là sur le babillard. C'est sûr que là, en voyant le titre, ça vous donne déjà la puce à l'oreille. C'est le même ennemi qui a entraîné Adam et Ève à tomber dans le péché. L'ennemi qu'on va voir aujourd'hui, c'est notre propre chair, notre propre corps qu'on est enveloppé. On a un âme, un esprit, notre présence, notre conscience de ce qu'on est. On est enveloppé dans un corps. Puis ce corps-là, c'est juste un véhicule temporaire pour notre temps terrestre. On marche dans notre corps juste pour le temps qu'on va avoir à vivre sur la terre. Puis quand Dieu va décider que ça en est assez, on va quitter ce corps. Puis là, ils vont constater que le corps est rendu décédé. La personne est décédée, est sortie de son corps. On reste toujours là, dans notre âme consciente, puis on va être conscient de l'endroit où on s'en va après la mort. Le point que je veux qu'on prenne conscience ce matin, c'est que notre être, notre moi, c'est ce qui est à l'intérieur. Notre corps, c'est seulement que l'enveloppe. Mais cette enveloppe-là, malheureusement, elle a été créée complètement différente de la volonté de Dieu. Puis vous allez le comprendre quand on va avancer dans l'étude. Elle a été créée libre. Libre de penser, libre d'agir, cette enveloppe-là a des désirs, a une volonté, a des convoitises, a des passions, il est alimenté par différentes émotions puis différentes attractions vers des choses qui déplaient à Dieu. Puis Dieu, c'était dans son plan de nous mettre dans ce corps, dans un corps semblable, afin de mettre à l'épreuve l'homme intérieur. Le véritable vous. Il a permis que vous soyez au monde dans un corps qui va avoir toutes ces attractions-là, ces désirs-là, cette résistance même à la volonté de Dieu. Il a permis que vous soyez à l'intérieur de votre corps, puis vous allez avoir à combattre contre ce corps-là toute votre vie. Il va vous suivre tout le long de votre passage terrestre. Puis, sans s'en rendre compte, chaque individu qui est dans son corps est en contact dans son corps avec cette matière-là formée d'organes, de muscles et d'os, qui est comme un danger, je dirais, c'est un danger pour chaque individu qui n'est pas averti puis qui ne comprend pas ce qui se passe dans sa vie. Parce qu'il y a tellement de péchés qui se font aujourd'hui. Ils ont une ouverture aujourd'hui de plus en plus grande à tout ce que Dieu a interdit, quand on parle de la sexualité hors du mariage, puis tous les désirs que le corps peut avoir vers l'homosexualité, puis là, tout ce qui est même aller vers des petits-enfants pour tripoter les petits-enfants, ça, c'est des désirs du corps qui sont allumés, puis que les gens sont attirés dans cela, puis ils ne se rendent pas compte que c'est à eux, à l'intérieur, de dominer ces élans-là. Le péché se couche à la porte de chaque être humain, mais on a à dominer sur lui. Donc, le moi intérieur, on est au contrôle de quelque chose, de ce corps, puis on est quand même responsable des décisions de notre corps. Puis quand on va lire tous les passages, aller comprendre quel est le plan de Dieu pour venir au secours de ceux qui veulent s'en sortir des agissements de leur corps. Ce corps-là entraînait Adam et Ève à pécher, parce qu'il n'y a pas juste le diable qui a parlé à Adam et Ève pour dire d'en prendre. Le corps d'Adam et Ève ont vu que l'arbre était agréable à la vue, qui était bon à manger. Ça, c'était les élans du corps qui décidaient de dire que ça avait de l'air d'être bon à manger, ce fruit défendu-là. Le corps était amorcé, il était tenté à le faire. Pourtant, Dieu avait dit, touche-y pas, le jour où tu vas en manger, tu vas mourir. Le corps était tenté, attiré, il y a eu comme une amorce faite par le diable qui a dit, mangeant, ça va te donner un paquet de choses positives. Puis le corps a embarqué, puis Adam et Ève, ils n'ont pas compris qu'ils étaient aux commandes de leur corps, puis ils auraient dû dire non. Mais ils ont embarqué, puis ils ont tombé dans des obéissances. Ça a entraîné qu'ils sont morts spirituellement, instantanément, qu'ils ont été séparés d'avec Dieu. Puis là, ils ont été privés de l'arbre de la vie, puis par la suite, ils étaient condamnés à aboutir à avoir la mort physique. C'était annoncé d'avance par Dieu, mais l'homme, comme qu'on le sait, il aime avancer dans ses propres expériences. Souvent, quand il n'a pas essayé, quand il n'a pas touché, il comprend pas puis il écoute pas. C'est parce que c'est notre corps qui est comme ça, d'une attitude de rébellion puis de vouloir quand même faire les choses. Mais ce corps-là, Dieu a mis l'homme dans cela, l'homme et la femme dans ce corps-là, puis Dieu savait ce qu'il faisait. Parce que Dieu avait un plan d'amener tous les hommes dans le fait qu'on devrait réaliser notre position et demander de l'aide à Dieu pour s'en sortir. Parce que sans l'aide de Dieu, c'est impossible de venir à bout de notre corps. Il y a une grande vérité que personne sur la terre n'échappe dans Éphésiens 2, le verset 1. Vous étiez morts. Là, c'est marqué par vos offenses, mais dans le grec, c'est pas par vos offenses. Vous étiez morts dans des offenses et dans des péchés. C'est comme si tout l'ensemble était déjà là. On était tous des morts dans ce monde, puis on marche automatiquement par défaut dans les désobéissances, dans des offenses à Dieu, puis dans des péchés. La vie de la mort spirituelle entraîne automatiquement un élan vers la désobéissance à Dieu et à pratiquer des péchés. Il dit, étiez morts dans les offenses et les péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous, le verset 3, écoutez bien ça, nous tous, nous étions de leur nombre. On était des morts spirituellement, puis on marchait dans nos offenses et dans nos péchés. Puis là, ça le dit, et nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair, de notre corps. On accomplissait les volontés de notre chair, de notre corps et de nos pensées. On était par nature des enfants de colère comme les autres. C'est par nature, c'est naturel. En venant au monde, c'était naturel d'avoir un corps qui nous conduisait vers le péché et vers des offenses envers Dieu et à subir la colère de Dieu. C'était par nature une chose qu'on a héritée en venant au monde, d'être mort spirituellement, puis d'être continuellement, par notre corps, entraîné à désobéir à Dieu. Puis on marchait, comme qu'on le voit dans ce passage-là, dans une volonté, puis dans des convoitises, puis des passions, puis des désirs que notre corps avait, et aussi que nous avions. Parce que ça dit au verset 3, « Nous vivions selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de notre chair et de nos pensées. » Les gens terrestres font face à deux volontés ennemies de Dieu. La volonté de notre corps, que lui a des volontés, puis notre volonté qui est aussi une volonté qui se rebelle au plan de Dieu. Puis on était par défaut, par nature, des gens qui devaient subir la colère de Dieu. Ouch! Dans le psaume 51, le verset 5, David dit, « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » En venant au monde, par défaut, notre nature et notre position, c'est qu'on est né dans un corps de péché, puis un corps qui est mort spirituellement. On était des êtres déchus, puis des êtres dans un sens condamné à aller dans les désobéissances puis des offenses à Dieu, puis on était par nature des gens qui devaient être allés sous la colère de Dieu. Dans ce passage-là, on voit dans Éphésiens 2:3 que notre corps, il y a une volonté, il y a des convoitises, il y a des passions, il y a des désirs, puis ils sont là, mais il faut le réaliser, parce qu'on a à combattre contre ça. C'est pas tous les désirs qui sont péchés. Comme j'ai le désir de manger une crème glacée, c'est pas un péché, mais on parle des désirs de péché, des désirs de désobéir, des désirs d'accomplir une volonté, mais qui n'est pas la volonté de Dieu. Parce qu'en partant, Dieu voulait qu'on obéisse à sa volonté, qu'on serve à louanger sa grâce, mais par défaut, on avait un corps que lui, il a sa propre pensée, il a ses propres désirs, son propre plan, son propre but de la vie, ses... Il veut marcher dans ce que lui aime. Puis nous, on est aux commandes de cela, puis on l'écoute. Puis on assujettit notre pensée à la volonté de notre corps, puis on se laisse entraîner à toutes les occasions qu'on a de pécher. Par défaut, c'est automatique. On va dire des choses, on va penser des choses, on va faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Puis à cause de cela, on était tous des condamnés à la colère. À la colère de Dieu. Dans notre corps, il y a ses œuvres, il y a ses excès, ses actions et ses réactions. On voit ça dans Galates 5, le verset 19. Quelles sont les œuvres de notre corps? Ça, il fait comme un court résumé. C'est rien qu'un résumé. Il n'a pas mis une liste complète de tous les péchés que notre corps faisait. Mais il y en a déjà pas mal qu'on peut se retrouver facilement qu'on a transgressé la volonté de Dieu dans plusieurs de ces points-là. J'ai pris la version français courant, plus facile à comprendre. Galates 5, le verset 19. « On sait bien comment se manifeste l'activité de notre propre nature, de notre propre corps. » dans l'immoralité. Qu'est-ce que l'immoralité? Faire des choses qui n'est pas morale. Mais quand on a une morale, la société elle a une morale. Des choses qui est permis de faire, qui est correct de faire, qui est politiquement correct. Puis les choses immorales, c'est tout ce qui n'est pas correct de faire. Mais par défaut, l'ensemble de l'humanité a fait des choses immorales que Dieu n'accepte pas. Comme un exemple, aller coucher avec une autre femme quand t'es déjà marié, ou pas attendre d'être marié, coucher avec les femmes, c'est de l'immoralité. La morale de Dieu était qu'on se marie. Mais ça, c'est un exemple. Il y en a des centaines d'exemples de choses immorales qui peuvent être pratiquées. Mais en général, l'immoralité, c'est une action que notre corps désire de devenir immoral, puis que là, on obéit à notre corps, puis on se laisse aller à ses désirs. L'immoralité, l'impureté, il y a des choses impures qu'on a faites, puis qui n'étaient pas permis dans la volonté de Dieu. Le vice, les plaisirs de faire du mal, les plaisirs de faire des choses défendues. Le culte des idoles, c'est naturel à notre corps de se mettre à genoux devant des objets. Notre corps est attiré par cela, de se mettre à genoux devant un objet, que ce soit un objet de culte, là, un crucifix, une photo, mais tout dépendant de notre culture, on est environné d'objets vénérés. Puis c'est naturel pour notre corps de vénérer d'autres choses que Dieu. Que ça soit même vénéré des humains. Quand tu élèves un pape, puis là tu te mets à genoux devant lui, c'est un idole devant Dieu. Si tu te mets à genoux parce qu'il y en a pour eux autres un joueur de hockey, c'est un idole. Hein? Puis c'est bien, il dit sans gêne, là, le temple de la renommée. C'est quoi ça? Un temple de la renommée. Un temple, c'est un lieu où tu vas adorer un Dieu. Puis là, ils ont fait un temple de la renommée. Tous les joueurs qui ont de la renommée, qui ont du renom, qui ont une bonne réputation, tu sais, qui sont élevés parmi la société, ils ont fait un temple pour les placer là, pour que les gens aillent là, puis qu'ils soient, ils activent leurs idolâtries envers l'homme, puis envers les sports, puis envers... Là, l'idolâtrie est grande. Là. Dans les religions, il y a de l'idolâtrie envers des objets, mais il y en a aussi vers les personnes. C'est toutes des choses qui étaient défendues à Dieu, que le corps, lui, il est automatiquement attiré à le faire. C'était dans notre nature. C'est un œuvre de la chair. Ça dit, par la magie aussi. Tu sais, le corps, il aime ça se sentir, je suis puissant, je peux faire cela. Puis là, il comme les films de magie que tu vois, là. Là, il invoque une phrase, là, puis là, le pouvoir. Il est content de se sentir qu'il est dans une puissance, puis de pouvoir, mettons, de donner une poussée à l'autre, puis que l'autre revole, tu vois ça dans un film ou dans des jeux. Puis là, l'autre revole à cause que tu as un pouvoir qui est sorti de toi, mettons. Mais la magie, il y en a qui trippent là-dessus, puis attaquent le monde, puis ils se sentent dans un pouvoir de sciences occultes. C'est sûr que c'est des sciences occultes, mais ils aiment... Le corps aime ça, aller vers cela, les voir les médiums, connaître l'avenir. C'est pas l'Esprit de Dieu qui nous met ça, d'aimer ça. C'est notre corps qui veut savoir, qui veut voir, qui veut essayer, qui veut faire. Puis ça tombe, ses pulsions, ses intérêts à ce corps-là, c'est de goûter aux sciences occultes, puis pouvoir être plus puissant. Puis avoir des révélations de choses cachées, ils vont aller voir des médiums, puis de ceux qui tirent l'astrologie, les cartes du ciel. Puis ça l'amène la désobéissance au plan de Dieu, quand Dieu nous a déjà dit qu'il était contre ça. Dans les œuvres là, de la chair, il n'y a pas juste ça. Les gens se haïssent les uns les autres. C'est un œuvre de la chair, ça, quand tu te mets à haïr quelqu'un. C'est ton corps qui n'est pas content de ce que l'autre corps a fait. T'as entendu des paroles, t'as vu des choses, puis ça t'a irrité ton corps, ça a peut-être blessé ton corps, puis là ton corps réagit par de la haine. C'est pas l'Esprit de Dieu qui fait ça, c'est le corps. C'est un péché devant Dieu. Là, les gens, ils se querellent, ils sont jaloux. C'est encore le corps qui est en agissement pour une compétition, puis là, ils jalousent l'autre. Là, lui, il a réussi à faire ça, moi, je vais le battre, je vais en faire encore plus. Ou l'autre, il a réussi à s'acheter ça, mais moi, on m'en a acheté un qui est encore meilleur que le sien. On sent comme en compétition, puis en jalousie face à ce que les autres font ou les autres ont. Puis c'est la chair, notre corps, qui fait ces réactions-là. Là, il dit, ils sont dominés par la colère et les rivalités. Il vient un temps même que l'agressivité, la colère, la méchanceté peut nous dominer, mais ça vient de notre corps, ça, avec. C'est pas l'Esprit de Dieu qui fait ça. Puis nous qui sommes au contrôle, on se livre à ça, on accepte ça, on médite à cela. Il y en a qui se réveillent la nuit pour haïr le prochain. Ils se réveillent, là, puis ils pensent à leurs ennemis, puis là, ils continuent à leurs en vouloir, puis à dire... Puis à souhaiter qu'il nous arrive du mal. C'est le corps qui fait ça, c'est pas l'Esprit de Dieu. Il se divise en parties et en groupes opposés. C'est des sectes. Là, ils se forment des parties. Là, la guerre pogne entre les parties. Même à regarder là, un combat de la politique, là, les partis de politique. Puis quand ils se confrontent, là, puis ils se lancent des insultes, puis là, ils s'attaquent un l'autre, puis ils se critiquent un l'autre. Ça nous donne un bon exemple comment est-ce que le corps peut réagir. Puis là, ils s'attaquent, puis ils se battent. C'est tout juste s'ils ne se battent pas à coups de poing, là. Mais ils ont compris dans leur politique qu'ils ont le droit de se dire des bêtises, puis après ça, ils vont prendre un verre ensemble. Mm-hmm. C'est juste comme un genre de spectacle qu'ils font. Puis ils font quand même... Mais quand même, entre nous, là, entre habitants de la planète, ça nous est sûrement arrivé qu'on a fait un groupe à part d'un autre groupe, puis qu'on commence à chercher à se confronter un l'autre. On est envieux, on a envie toutes sortes de choses, on n'a jamais assez, puis on n'est jamais satisfait de ce qu'on a, puis on en veut plus, puis on en veut plus. Là, on se livre à l'ivrognerie. Ça, c'est qu'est-ce que le corps peut absorber, là. Il absorbe de l'alcool en excès. L'ivrognerie, c'est de l'excès d'alcool. C'est pas le fait de prendre l'alcool. Tu as le droit de prendre l'alcool. C'est les excès qui sont péchés. Fait que quand tu es rendu un ivrogne, tu es rendu sous, là, c'est de la débauche devant Dieu. Puis des orgies. Les orgies, ça, il paraît que la décadence de l'Empire romain était à cause de cela. La boisson, la débauche, les orgies, ça, c'est un party, là, à 3, 5, 10, 20 personnes. Tout le monde tout nu, tout le monde font des... C'est ça, une orgie. C'est des affaires dégueulasses. Puis ça se fait encore aujourd'hui, ça. Puis je dis pas où aller en chercher, mais il y en a à la télévision, dans des films normaux, là, ils nous montrent des scènes d'orgie. D'acteurs qui couchent ensemble, c'est du péché, c'est de l'orgie. Parce qu'ils n'ont pas d'affaires à faire ça. Ils ne sont pas mariés ensemble, ces deux personnes-là. Puis même s'ils sont mariés ensemble, Dieu n'a pas fait que ça soit mis à découvert à la place publique. La sexualité, c'est en secret entre toi et ta femme, dans l'intimité. Ça regarde pas les autres. Mais c'est de la débauche, c'est des orgies, c'est de la prostitution aux yeux de Dieu. C'est de l'impudicité, c'est un manque de pudeur, c'est de l'immoralité. Ils commettent d'autres actions semblables. Puis Paul, quand il a écrit ces choses-là, il dit, j'avertis maintenant, comme je l'ai déjà fait, ceux qui agissent ainsi n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Fait que si on est une personne qui aime à se livrer dans toutes ces débauches-là, puis on pratique ces choses-là, pensons pas que Dieu passe par-dessus tout ça comme si rien n'était. Dieu est en colère, puis c'est encore les agissements qu'on pouvait avoir avant de se convertir, avant, quand on connaissait pas Dieu. Mais une fois que tu connais Dieu, Dieu a un autre plan pour toi. Il veut pas que tu restes dans ce chemin-là. Il veut que tu sortes de cela. C'est grave. Parce que il nous dit que la chair, là, dans Galates 5, 17, les œuvres de notre corps et de notre chair sont complètement à l'opposé de la vie de Dieu puis du plan de Dieu. Dans Galates 5, 17, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit de Dieu. Puis l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Puis ils sont opposés entre les deux, afin qu'on ne fasse pas ce qu'on veut. Notre corps a une volonté complètement différente, à l'opposé de ce que le Saint-Esprit, lui, veut qu'on vive. Le Saint-Esprit veut nous amener dans la sainteté, dans la pureté, dans la sanctification, pour qu'on devienne des saints, qu'on devienne des lumières dans ce monde, qu'on devienne le sel de la terre. Il veut nous amener à sortir de ce contexte-là pour nous changer, nous laver, nous purifier, nous transformer, pour qu'on devienne de nouvelles créatures. En Romains 8:8, il dit, « Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Tu peux pas vivre dans toutes ces débauches-là puis penser que Dieu t'aime puis Dieu est content de la manière que tu vis. Notre corps le veut le vivre ça parce que ça y fait plaisir à notre corps. Il y a une réjouissance, il y a une jouissance de vivre dans des péchés. Le corps, il aime ça, la sexualité. Il aime ça parler gras. Il aime ça penser des impuretés. Notre corps, il aime ça. Mais pas l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu, il est saint. Sa vie à Dieu est 100% complètement différente à ce que notre corps peut désirer. Notre corps, hein, une fois qu'on se convertit au Seigneur, même une fois qu'on se convertit, notre corps, là, il nous fait faire des choses qu'on veut pas. Quand une personne veut s'en sortir, tu vas toujours être en combat contre ton corps. Puis combattre contre ses passions, ses désirs, ses pulsions, ses intérêts à notre corps. Tu vas toujours être en guerre, surtout quand tu veux devenir chrétien. Parce que quand tu veux marcher comme un chrétien, tu veux marcher selon la parole de Dieu, selon l'Esprit de Dieu. Puis là, il y a une guerre qui s'installe entre toi, l'Esprit de Dieu qui t'emmène dans une direction, puis ton corps qui veut t'emmener dans l'autre direction. Puis ce combat-là, je ne vais pas vous faire de la peine, là, mais ce combat-là va durer tant que j'allais être vivant. Tant que j'allais être dans ce corps-là. Puis relâchez pas dans votre idée et dire, oh, on va se laisser aller un petit peu, parce que notre corps, c'est pas long, qui prend le petit peu que tu y laisses. Puis après ça, il va en vouloir plus. Un petit péché mignon, t'emmène à vouloir plein d'autres péchés. Vous voulez un exemple biblique de ça? Judas. Lui, il portait la bourse du groupe. C'est lui qui portait l'argent, puis il pigeait dans le pot. Puis il en voulait de l'argent. Puis là, il m'en donnait une qui avait un vase d'albâtre. Puis là, elle l'a ouvert, elle l'a versé sur Jésus. Puis là, il s'est irrité, puis il a dit, ouais, on aurait pu vendre ça à 300 deniers, puis donner l'argent aux pauvres. Ça dit, c'est pas parce qu'il se mettait réellement en peine des pauvres, c'est parce qu'il portait l'argent. Puis que là, il convoitait l'argent. C'est péché de voler l'argent du groupe. Il n'avait plus assez. Fait que là, il a commencé même à se battre pour n'en avoir plus. Quand que Jésus a pris la part de la femme, laissez-la faire. Ça a servi pour ma sépulture avant que je meure. Là, le diable inspira à Judas le dessein d'aller livrer Jésus. Il voulait faire une pièce. Il avait besoin d'argent. Son péché de cupidité, de prendre l'argent qui n'était pas à lui, l'entraîner à accepter une autre idée que le diable a mis. Je vais vendre Jésus, m'en faire une pièce. Il est allé vendre Jésus. Ça dit, Satan entra dans Judas, puis là, il est allé vendre Jésus. Un petit péché emmène des gros péchés. On peut pas se permettre d'accepter que notre corps prenne de la place, puis se laisser aller en disant que c'est pas grave. Oui, c'est grave. Faut pas se laisser aller. Dans Romains 7, le verset 14, ça nous dit, « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. » Comme Paul tantôt, pas Paul, David disait, « Je suis né dans l'iniquité, puis j'ai été conçu dans le péché. Mais moi, je suis un vendu au péché, que Paul dit. » Car je ne sais pas ce que je fais, puis je fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. On voit que le péché, il est là en nous, puis ça nous pousse toujours à faire des choses qu'on n'aime pas. On est vendu, notre corps, il est vendu au péché. Puis là, au verset 17, là, il nous fait comprendre que, et maintenant, c'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Il faut comprendre que notre corps, dans notre corps, habite le péché, l'attitude de se rebeller contre Dieu et les désirs que Dieu a défendus. On est attiré par cela, puis c'est le péché qui est en nous. Toutes ces convoitises que notre corps a, tous ces désirs, ces pulsions, ça a de l'air satisfaisant, mais ça nous crée une lutte et une guerre à notre âme. 1 Pierre 2:11. Bien-aimés, je vous exhorte en tant qu'étrangers et voyageurs à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. L'âme, là, c'est comme je disais, c'est l'homme intérieur. Puis chaque fois que notre corps a des désirs, puis des pulsions, puis des passions dans des choses que Dieu aime pas, ça nous crée un conflit, ça nous crée une lutte dans notre âme. On est en guerre. L'Esprit de Dieu veut nous emmener sur un côté, puis notre corps veut nous emmener sur l'autre. Ça crée des désirs, des guerres dans notre âme. Puis, il nous exhorte là à penser qu'on est comme des étrangers, puis des voyageurs sur cette terre. On fait pas partie de ce monde. On fait pas partie de comme si ça serait important de se conformer comme tout le reste du monde. On est juste des voyageurs, des gens de passage. Fait qu'il faut prendre tous ces désirs-là que notre corps a, faut prendre ça comme « Wow, je suis juste en passage, j'ai pas le temps de me livrer à ça. Moi, mon chemin, c'est le chemin de Dieu, puis j'ai hâte que ça soit fini. » Dieu nous appelle à nous débarrasser des souillures de notre corps. Une fois que tu es chrétien, là, son chemin, s'il veut que tu t'en débarrasses, dans 2 Corinthiens 7:1, ça dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. On doit se purifier. Qu'est-ce que ça veut dire, purifier? Devenir pur. Purifier, ça vient du mot pur. Qu'est-ce que ça veut dire, devenir pur? Ce qui est contraire, ce qui est impur. Avant, on était dans les impuretés de notre corps, dans les désirs impurs, puis là, quand on vient au Seigneur, le Seigneur veut nous purifier, il veut nous rendre purs, pas juste nous pardonner. Il veut qu'on s'en sorte, qu'on se débarrasse, qu'on travaille à se sanctifier. Se sanctifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire devenir de plus en plus saint. Qu'est-ce que ça veut dire, saint? Ça veut dire sacré, comme si c'était un objet sacré. Dieu est saint, il est sacré. Le reste, c'est du profane. Mais il veut qu'on se sanctifie, ça veut dire qu'il veut qu'on devienne de plus en plus saint, comme lui est saint. Vous serez saint, car je suis saint. Le fait que Dieu rentre dans notre vie, c'est dans le but de nous sortir des passions de notre corps, puis de faire mourir tout cela. Puis Dieu y tire une gloire dans tout cela, de voir des gens qui combattent contre eux-mêmes pour arriver à se sanctifier. Dieu est fier de voir des gens qui luttent pour se sortir de ce monde corrompu. Puis il savait d'avance, avant même qu'on vienne au monde, qu'on aurait ce combat-là à livrer, contre notre propre corps, contre le diable et contre le monde. Puis ça, je vais en parler dans le prochain message sur un ennemi du chrétien qui est le monde. Mais aujourd'hui, on parle de la chair. Dieu savait d'avance qu'il nous mettait dans un corps comme cela, parce que Dieu voulait qu'on dépende de lui puis s'en sortir, puis qu'on combatte, puis qu'on s'en sorte, puis qu'on ait la victoire, parce que il nous a déjà donné tout ce qui était nécessaire pour qu'on soit dans la victoire. Qui peut délivrer les gens de ce corps attiré vers la mort? Parce que la conséquence de nos péchés, c'est la mort. Qui peut nous sortir de ce corps-là qui nous amène vers la mort? Gloire à Dieu. Romains 7. Misérable que je suis, au verset 24. Qui me délivrera du corps de cette mort? Au verset 25, « Gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. » On a une délivrance qui a été accomplie à la croix à cause de l'œuvre accomplie de Christ. On peut être délivré de ce corps de mort-là. Il n'y a pas d'autre moyen que cela. C'est le seul moyen qui est notre bouée de sauvetage, qu'on peut s'accrocher et sortir puis nous éviter d'être noyés. C'est fort, qu'est-ce que je vais vous dire dans les prochains versets. C'est la puissance de Dieu à l'œuvre. On a besoin de cela parce qu'on ne va pas le chercher, si on ne combat pas, on va rester dans nos corruptions, on va s'être étouffé avec. Romains 8:1, là, Dieu il a mis une nouvelle loi spirituelle qui est en Jésus-Christ seulement, cette nouvelle loi spirituelle-là. C'est la loi de l'esprit et vie. C'est une nouvelle loi, c'est pas la loi de Moïse, c'est pas une loi de la nature, une loi de la physique, c'est la loi de l'esprit. Il y a une nouvelle loi quand tu es dans l'esprit, une nouvelle puissance qui est agissante pour vivifier, pour donner la vie. Une loi qui vient de l'Esprit de Dieu, qui nous affranchit, qui nous délivre de la loi du péché et de la mort. Romains 8, 1, ça nous dit, « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Avant de connaître Jésus, on était dans un corps attiré par le péché, on se livrait à nos péchés, puis automatiquement, quand il dit « vous étiez mort dans vos offenses, dans vos péchés », mais automatiquement, tu étais sous la loi du péché et de la mort. Le fait de te livrer selon ton corps, dans les désobéissances de ton corps, dans l'obéissance au diable ou au monde, dans ses pulsions, ses passions, tu étais dans la loi du péché. Il y a une loi, là, qui condamne tous ceux qui vivent dans leur corps, qui vivent selon les penchants naturels de leur corps. Puis on était tous, naturellement, des enfants de colère sous la loi du péché de la mort. Mais maintenant, en Jésus-Christ, quand tu as reconnu que Jésus a tout payé, qu'il a tout accompli, qu'il est mort sur la croix, qu'il a versé son sang pour nous autres, lui, sans péché, il a accepté de mourir, Dieu l'a ressuscité, il y a une victoire incroyable qui s'est passée là, il a vaincu la puissance des ténèbres, il a vaincu le diable avec tout ce que le diable avait comme arme pour se confier, pour combattre contre le monde. Le diable détenait la puissance de la mort. Le péché, dans ce verset-là, nous dit c'était la loi du péché de la mort. Puis quand tu es en Jésus-Christ, tu crois qu'il a accompli cela, tu le reçois, Jésus, comme ton sauveur. Il ne fait pas juste te pardonner. Il se passe plein d'affaires au moment de ta nouvelle naissance. Tu es changé de camp, tu es rendu dans le royaume de la lumière. L'Esprit de Dieu habite en toi. Il y a une nouvelle loi spirituelle qui est en train de s'accomplir sur ta vie. La loi de l'Esprit y vit. Puis ça te délivre de la loi du péché puis de la mort. Tes péchés t'emmenaient dans la mort. Quand tu arrives en Jésus-Christ, par la foi, tu as reçu le pardon, puis tu as reçu un affranchissement de cette loi qui t'emmenait à la mort. Puis il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si tu demeures en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation quand tu es en lui. Parce que aussi longtemps que l'Esprit de Dieu va habiter en toi et que tu marches avec, il y a une nouvelle loi spirituelle qui est agissante dans ta vie, une loi qui te libère de la loi du péché. Vous allez voir, il y a plein d'autres petites affaires extrêmement intéressantes. Lorsqu'une personne donne sa vie au Seigneur, il y a un miracle qui se produit. Puis je pense que c'est le plus beau de tous les miracles, le miracle de nouvelle naissance. Quand quelqu'un reçoit le Christ dans sa vie, il est une nouvelle créature. À partir du moment qu'il se repent, puis qu'il reconnaît qu'il est pécheur, puis qu'il est perdu, puis qu'il reconnaît que Jésus est mort sur la croix pour pardonner ses péchés, quand il l'accepte comme son sauveur, il est en train de se convertir puis se repentir, il l'accepte, il le reçoit. Il n'y a rien de plus beau dans ce monde que cela. C'est un moment spécifique que Dieu a voulu nous donner une occasion, puis c'est une opportunité. C'est le seul moyen qui nous a été donné pour sortir de tous les ravages du péché, de notre corps, du diable et du monde. C'est de le prendre et de le recevoir, un cadeau gratuit qu'on reçoit. À partir de ce moment-là, tu es une nouvelle créature. Devant Dieu, tu n'es plus pareil, pantoute, tu ne fais même plus partie de ce monde. C'est comme si tu as sorti de ce monde, bien que tu es encore dans le monde, puis toute ton orientation de ta vie a commencé à changer. Tu n'es pas rendu parfait au moment où tu te convertis, non. Mais ceux qui ont l'Esprit de Dieu, puis qui marchent par l'Esprit de Dieu, vont marcher dans le chemin de la sanctification. Nous sommes venus à Christ à partir de ce moment-là qu'on a accepté Jésus. Daniel Poulain, surnommé quand j'étais jeune, Poupoule, il est mort. Il n'y a plus de Poupoule, il est mort. Puis là, c'est un être ressuscité qui a commencé à vivre le 20 novembre 1980. C'est un être ressuscité qui a commencé à vivre, quelqu'un qui, Popoule, est mort et enseveli, puis là, il y a une nouvelle créature qui a pris vie. C'est une créature qui s'appelle enfant de Dieu. Ça se reçoit pas par naissance, ou ça se reçoit pas parce que tes parents sont chrétiens ou sont sauvés, ça se reçoit selon la volonté de Dieu, par un don qu'il te donne, que tu reçois par la foi. À partir de ce moment-là que tu es mort, il se passe des choses, parce que regardez Romains 6, le verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, on n'est formé qu'un avec Jésus, avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. L'ancien Popoule, il est crucifié, ça a croix, il est mort. Il n'existe plus. Il est mort avec Christ. T'acceptes de mourir avec Christ. T'es mort à toi-même, t'as pris ta croix. T'as renoncé, t'es mort parce que tu t'es engagé. T'es crucifié, t'es enseveli, puis t'es ressuscité en nouveauté de vie. Puis ça a un but, pourquoi qu'on se crucifie avec le Christ? C'est afin que le corps du péché fût détruit. L'ancien Popoule, il est détruit. C'est un corps de péché-là qui l'entraînait dans la mort, dans la loi spirituelle du péché de la mort. Il est détruit. Ça a un but de le détruire à notre conversion, ça, pour qu'on soit plus esclave du péché. Wow! Là, ça veut dire qu'un enfant de Dieu, quelqu'un qui s'engage, il est libéré de l'esclavage du péché à partir de ce moment-là qu'il est crucifié avec le Christ puis que l'Esprit rentre en lui. Il y a une nouvelle loi spirituelle, t'es plus sa condamnation, puis l'Esprit de Dieu veut te conduire dans un nouveau chemin. Verset 7, « Celui qui est mort est libre du péché. » Les morts, là, ceux qui sont morts, le corps est mort, il est étendu dans le cercueil, il n'y a plus le goût de faire des péchés, ce corps-là, il est mort. Mais quand tu viens à Jésus-Christ, t'es mort, t'es été crucifié avec Jésus. Spirituellement parlant, il y a une loi qui est agissante. Tu es libéré du péché à partir de ce moment-là. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Là, on va voir des petites étapes là, très importantes qu'il faut tout le monde, si on veut combattre contre notre chair. Là. Notre victoire est déjà acquise à la croix, puis on est déjà partant des libérés du péché puis de son pouvoir à partir de notre conversion. Mais, ce qu'on faut réaliser, seule la communion avec Jésus peut nous délivrer de notre chair. Parce que la chair cherche à reprendre vie. Après le lendemain de notre conversion, le surlendemain, là, les désirs reviennent. Elle cherche à reprendre la place qu'elle avait avant de mourir. Dans Romains 8, 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais, si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Cette vie qui est possible de vivre en tant que chrétien, c'est produit par le Saint-Esprit. C'est lui l'Esprit que la loi de l'Esprit est vie. Vous voulez vivre spirituellement, il faut être animé, alimenté par l'Esprit de Dieu. Il veut qu'on apprenne à marcher par l'Esprit de Dieu. C'est pas quelque chose d'automatique parce qu'on était tellement habitué de marcher selon notre corps que là, tu viens à Christ, là, il faut que tu apprennes à marcher par l'Esprit. Puis par cet Esprit-là, tu peux faire mourir les actions de ton corps. Tu sais, quand Jésus a dit dans Jean 15, 5, « Sans moi, vous pouvez pas rien faire. » C'est juste l'Esprit de Dieu qui peut faire mourir les pulsions de votre corps. Si vous dites, « Oh ben moi, je vais essayer de vivre la vie chrétienne sans être en communion avec l'Esprit, sans marcher par l'Esprit, vous allez être en train de faire une religion. » Parce qu'une religion, c'est de marcher dans des principes soi-disant de Dieu, sans Dieu. Tu essaies de marcher toi-même dans une pratique pour essayer d'arriver par toi-même à être meilleur ou pour essayer de gagner ton ciel, ou bien, tu sais, la chair, elle essaye. Mais là, essayez pas, ça marchera pas. Le seul moyen que Dieu nous a donné, cette bouée-là est en Jésus, puis toute la puissance de cette bouée-là va être agissante en autant qu'on reste greffé au cep, puis on est alimenté de sa sève. Il dit, je suis le cep. Le cep, c'est le pied de la vigne. Puis vous êtes des sarments, c'est des branches. Tout sarment qui est en moi porte du fruit. Il faut que la sève du cep coule en nous. Puis là, il va y avoir quelque chose de puissant qui va se produire. Si on apprend à marcher par l'Esprit de Dieu, vous allez être capable de faire mourir les actions de votre corps. Mais c'est pas vous qui va le faire, c'est l'Esprit de Dieu en vous. Pour y arriver, là, je vais vous donner des petits détails techniques. Pour arriver à le vivre, parce que c'est beau de le savoir en théorie, il faut que tu l'expérimentes dans ta vie. Combien de choses que Dieu... Regardez, depuis que vous étiez avant votre conversion, puis après votre conversion, combien d'affaires que Dieu a enlevées dans votre vie, des choses qui n'étaient pas de lui. Puis comment est-ce qu'il en reste encore à enlever? Mais donc, on a de l'ouvrage à faire. Il faut apprendre à dépendre de l'Esprit de Dieu, à marcher par l'Esprit de Dieu, puis arriver à faire mourir tout ça, pour qu'on marche dans le chemin de la communion avec l'Esprit de Dieu. Sans Jésus, essayez pas, ça ne marchera pas. Il faut rester en contact. Premier des éléments que Dieu m'a montré qui était nécessaire pour sortir d'un péché, il faut que tu l'avoues que tu es dans le péché. Ceux qui ont passé par la nouvelle naissance, puis ils se pensent justes, puis ils se pensent meilleurs, puis ils se pensent corrects, puis ils se pensent capables, comme on voit dans l'être, dans l'Apocalypse, je suis riche, je me suis enrichi, j'ai pas besoin de rien. Dieu dit, tu sais pas que tu es misérable, pauvre, aveugle et nu. Mais tu peux être autosuffisant. Tu as pensé que tu as atteint quelque chose, que par toi-même, que tu es correct. Mais on est dans le péché quand on se pense de même. Puis dans ce passage-là, ça le dit clairement que Jésus n'est même plus là dans cette église-là. Puis il frappe à la porte, puis il aimerait ça rentrer dans son église. Le monde a jeté Jésus dehors, puis il vit dans l'autosuffisance. Je suis capable tout seul. C'est un péché. Ça fait encore partie de l'œuvre de la chair qui se pense, puis elle a ses désirs. Non, ça, c'est pas obligé en ce moment-là. Là, le point que je veux emmener, il faut être capable de s'avouer qu'on a des péchés. C'est pas obligé de crier « c'est toi », là. Dites-le à Dieu, puis si le bon est d'aide, demandez de l'aide à un autre, dites-lui qu'il y avait tel problème, puis que là, il va prier avec vous. Pis c'est ça qui est le secret. Dans 1 Jean 1,8, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, puis la vérité n'est point en nous. » Si nous confessons nos péchés, ça parle à des chrétiens, là. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. On veut être pur. C'est ça que je disais, le Saint-Esprit veut nous amener à être pur. Mais il faut que tu passes par avouer que tu es dans le péché. Seigneur, j'ai tel péché dans ma vie. Puis c'est ça qui fait que tu demeures dans la lumière. Que tu marches en communion, tu restes à jour avec Dieu. Tu ne cherches pas à cacher tes péchés pour marcher dans les ténèbres, puis disant, c'est pas grave, ces péchés-là, j'aime ça, puis il n'y a pas personne qui le sait. Oubliez ça, Dieu le sait quand on est dans le péché. C'est déjà trop que Dieu le save. Parce que c'est à lui qu'on a à rendre compte, c'est pas aux autres. Les autres, s'ils s'en aperçoivent qu'on est dans le péché, ils vont venir nous reprendre. C'est admis mal, mais il ne faut pas attendre que Dieu nous serre la vis puis qu'il nous pogne par un bras parce qu'il dit « Le Seigneur châtie tous ceux qu'il aime puis tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Une fois qu'on confesse puis qu'on demande le pardon puis qu'on demande la purification, c'est de marcher dans la vérité, c'est de marcher dans la lumière. Ensuite, nous devons nous livrer à ce qui est juste. Dans Romains 6, 19. De même, donc, que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Vous êtes aux commandes de votre corps. L'homme intérieur, l'homme spirituel, l'homme qui est régénéré, l'homme né de nouveau, qui marche en contact avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu nous montre les choses qu'il veut changer dans notre vie. On les confesse. Oui, Seigneur, c'est vrai que j'ai telle affaire. Je te demande pardon, puis je te demande de me purifier. On veut que Dieu nous sorte de là. Puis quand tu le fais, après ça, il y a quelque chose qui se passe que tu peux être capable de te livrer. Dis, Seigneur, je veux marcher dans ton nouveau chemin que tu me montres. Je veux marcher dans ce que tu me montres. Je veux marcher dans l'obéissance. Là, tu vas te livrer dans ce qui plaît à Dieu. Avant, on se livrait dans tout ce qui nous plaisait. Ça ne veut pas dire que quand tu es chrétien, tu n'auras pas de tentation. J'en ai-tu eu, moi, des idées des tentations d'aller coucher avec une autre femme après que j'ai été marié? J'en ai-tu eu, pensez-vous? Tout le monde a eu ça, ces idées-là, d'avoir des idées sur la sexualité, à penser à un autre. Ça, c'est des tentations. Le problème, c'est, est-ce qu'on se livre à ça? Il y a une grosse différence. Tu peux savoir que tu es tenté. Là, tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi même d'en avoir une pensée. Puis là, garde-moi, je veux pas y aller dans cela. Puis là, tu y vas pas. Qu'est-ce que ça fait? Tu livres plus ton corps au péché, tu le livres à la justice, à ce qui est juste devant Dieu, ce qui est saint, ce qui est pur. Tu gardes ton mariage, tu bâtis ton mariage, tu t'es engagé à être fidèle pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort nous sépare. On se livrera pas à ce qui nous passe. Des goûts de prendre une brosse, là. Ça arrive aussi quand tu es chrétien. C'est qu'il faut pas que tu te livres à ça. Faut que tu boives modérément, avec sagesse. Faut que tu te contrôles. Puis si tu t'aperçois que t'en bois 4, t'en as trop, arrête à 3. Mais c'est quelque chose que tu peux contrôler. Si tu veux devenir abstinent, tu peux jeûner sur l'alcool. T'es pas obligé. Jésus buvait de l'alcool, mais il s'enivra pas. C'est le contrôle. Mais si vous l'avez pas parce que vous avez un problème, vous êtes mieux de le combattre. Puis demander à Dieu qu'il vous en sorte, puis il va le faire. Là, vous allez être capable de vous livrer à l'abstinence. Il y a plein de gens qui connaissent même pas Dieu puis qui forcent par leur propre force pour y arriver. Puis ils savent que c'est pas correct. Mais si je l'avoue pas que j'ai ce problème-là, je m'en sortirai pas. Nous devons réaliser notre état réel pour donner. On doit réaliser notre état réel donné par Dieu, parce que quand tu es enfant de Dieu, il y a une nouvelle position que tu es rendu là. Tu es un enfant de Dieu, tu marches dans une autorité, dans un pouvoir produit par le Saint-Esprit, puis lui veut t'amener dans une nouvelle dimension. Faut que tu le réalises, ta nouvelle position en Jésus, puis les nouvelles possibilités de te sortir de tout cela. Puis là, après ça, continuellement, faut que tu te livres à Dieu dans l'obéissance à ce que Dieu te demande dans sa parole, selon les règles de sa parole. Puis tant aussi longtemps qu'on va être dans cette vie, il va falloir agir dans cette direction-là, sinon c'est pas long que notre corps, lui, il va reprendre le contrôle, puis il va nous ramener dans ce qu'on avait vomi, puis la truie lavée est allée se revautrer dans le bourbier. On retourne dans notre ancienne vie, comme c'est écrit dans le Nouveau Testament. On doit se livrer à Dieu pour devenir des instruments de justice. On veut être des hommes justes, des hommes pieux, des hommes qui craignent Dieu, puis qui veulent obéir à Dieu par plaisir d'obéir à Dieu, parce qu'on aime Dieu, puis on veut être ses serviteurs, puis on veut mettre nos talents au service de Dieu. Puis plus tu vas avancer là-dedans, mais plus que Dieu est content de toi, puis plus que Dieu va te bénir, puis plus que Dieu va t'en confier encore davantage, puis tu vas produire beaucoup de fruits dans ta vie. Puis le fait de demeurer dans cette communion-là avec l'Esprit de Dieu, mais il va t'émonder afin que tu emportes encore plus de fruits. C'est lui-même qui coupe les branches inutiles de ta vie pour t'amener à que tu sois un arbre avec beaucoup de fruits, c'est quoi? Fructueux. Parce que tous les chrétiens, là, tous les enfants de Dieu sincères, il y a Galates 5, 24, ceux qui sont à Jésus-Christ, ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Faut faire attention. que notre chair ne se décloue pas de la croix pour vouloir débarquer. On est crucifié, on l'a crucifié notre chair, mais il faut faire attention que notre chair ne se décloue pas de la croix. Nous devons apprendre à marcher par l'Esprit, comme dit Galates 5,16. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si je me livre à l'Esprit Saint, il prendra le contrôle, puis la nouvelle vie de l'Esprit sera évidente et fera mourir ma chair avec ses passions et ses désirs. Puis comment discerner si nous sommes retournés dans la chair? Oups! Ça peut arriver quand tu es chrétien que tu retournes. Comment est-ce qu'on peut discerner, là, dans Romains 8, verset 5? Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, mais ils s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, ils s'affectionnent aux choses de l'esprit. Quel est le sujet de votre affection aujourd'hui? Quelles sont les pensées qui vous alimentent? Est-ce des pensées dans des choses d'en haut, de méditer la parole, de prier Dieu, de louer Dieu, de rester dans ce contact-là, puis de désirer vous sanctifier? Est-ce que c'est ça qu'on affectionne, ou c'est uniquement de parler des choses du monde, puis de ce qui se passe dans le monde, puis de trouver comme une affection dans cela? Parce qu'on peut être affectueux, soit du monde, ou soit de Dieu. Qu'est-ce qu'on affectionne? Si on est dans l'affection des choses du monde, puis qu'on se livre dans des péchés, puis qu'on aime ça, on est rétrograde. On est en train de reculer, on est en train de retourner où ce qu'on était avant. Puis l'Esprit de Dieu, l'Esprit que vous avez reçu à votre conversion, lui veut vous amener à vous sanctifier, parce qu'on se sanctifie encore davantage, puis qu'on se consacre encore plus à lui, puis qu'on marche de plus en plus pur aux yeux de Dieu. Si on s'affectionne aux choses d'en haut, mais le fruit de l'Esprit va se produire automatiquement, puis l'Esprit de Dieu va nous emmener encore plus à ressembler à Jésus. Nous sommes en guerre contre notre propre corps. Puis le dernier verset que je vous lis, c'est Paul qui en parle, dans 1 Corinthiens 9,26. Puis je pense qu'il faut avoir cette pensée-là. Paul, il dit, « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur, après avoir prêché aux autres, d'être moi-même disqualifié. » Disqualifié de la course, c'est que t'es mis out, tu n'es même plus considéré comme un participant. Tout ce que tu as fait, ton entraînement, puis le but de ta course que tu es en train de faire, toi, ton but, c'était de vouloir gagner la course, mais vu que tu n'as pas suivi les règles de la course, le juge, il disqualifie. Si tu avais gagné une couronne, il va même te l'enlever, puis il te garoche dehors comme un simple participant. Tu n'es même plus un participant de la course. Puis Paul, il dit, lui, il veillait à tenir son corps assujetti, à le tenir en bride, puis à vouloir vivre cette vie chrétienne-là à fond, de peur que finalement d'abandonner sa fermeté, puis qu'il se relive encore à son corps, puis qu'il retourne dans son ancienne vie, puis qu'il soit disqualifié par Dieu comme étant qu'il ne fait plus partie de la course. Qu'est-ce qu'on veut être en tant que chrétien? Voulons-nous marcher de victoire en victoire par l'Esprit de Dieu? Prions. Père, c'est dans le nom de ton Fils Jésus qu'on est rassemblés. Je te remercie pour ta parole qui est vraie, Seigneur. Tous ces beaux versets qu'on a vus, Seigneur, qui sont ta parole vivante et puissante, permanente. Cette parole qui peut changer nos vies. Seigneur, on le croit puis on le confesse que l'œuvre accomplie de Jésus, quand il est mort sur la croix, il est mort pour pardonner nos péchés parce qu'il a pris nos péchés sur la croix. Mais il est mort aussi afin que je sois crucifié avec lui et que je sois enseveli avec lui et afin qu'il ressuscite en nouveauté de vie, qu'il m'accorde le Saint-Esprit et qu'une nouvelle vie commence pour moi. Merci Seigneur de m'avoir attiré, m'avoir fait comprendre ce chemin-là. Maintenant Seigneur, je te prie que tu me gardes à rester fidèle, à faire attention, à ne pas livrer mon corps au péché, mais à le livrer comme un instrument de justice, puis que je puisse arriver à marcher continuellement dans cette sanctification. Conduis-moi par ton Saint-Esprit. Prends le contrôle de ma vie. Fais mourir les actions de notre corps, tout ce qui n'est pas de toi. S'il y a des choses que je ne comprends pas, révèle-toi, Seigneur. Je te remercie de ce que tu vas faire pour nous conduire dans toute la vérité, dans le nom de Jésus, ton Fils. Amen.